Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. En 2020, dans la bande-annonce d'un banger du jeu vidéo Call of Duty, un homme au physique funèbre, filmé en noir et blanc, avertit le monde occidental.
Comprenez ce qui se passe. Vous êtes en état de guerre et vous avez très peu de temps pour vous sauver. C'est un processus lent que nous appelons les mesures actives. La première étape, c'est la démoralisation. Il faut de 15 à 20 ans pour démoraliser une nation. La suivante, c'est la déstabilisation. Ce qui compte alors, ce sont les éléments essentiels. L'économie, les relations internationales, le système de défense. Vient ensuite la crise. Avec un changement brutal de pouvoir, de structure et d'économie. Puis une période de normalisation. Voici ce qui arrivera aux États-Unis si vous laissez tous ces imbéciles mettre en place un grand gouvernement central à la Big Brother, à Washington. Ils vous promettront monts et merveilles, peu importe qu'ils tiennent leurs promesses ou non.
La vidéo date de 1984, le millésime préféré des tyrans. Ce fantomas dégarni énumère ce que les amateurs de jeux vidéo adorent, des paliers à franchir. C'est-à-dire les quatre stades imposés par votre ennemi avant de se repaître de votre cadavre si vous n'adoptez pas la bonne stratégie. Cet homme ressort de l'oubli. Il enflamme l'imagination, depuis, il fout la pétoche. Ah, les bars d'hôtel, les grandes filles blondes glacées, les messieurs en costume clair qui lisent le journal avec des lunettes noires, les cocktails de crevettes piégées et le petit ftu du pistolet silencieux. L'espionnage pendant la guerre froide faisait et fait encore rêver. À l'époque, changer de camp, passer de la dictature du prolétariat à celle du Coca-Cola, ça demandait du cran et une garde-robe de magasin de farce et attrape. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Youri Alexandrovitch Bezmenov, l'ex-espion du KGB, passé à l'Ouest. Déguisé en hippie, indien, psychédélique, avec perruque sale et fausse barbe. C'était en 1970 et le pied à peine posé dans le monde dit libre, ce traître au bolchevisme avait jeté un cri d'alarme à propos d'une menace, aussi soviétique que la moustache de Staline dans un supermarché vide, aussi rouge qu'un rideau de théâtre derrière lequel se dissimulerait un chauve armé d'une sarbacane de fabrication tchécoslovaque. La subversion. Quel est donc ce concept ? Et pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui ? Vous allez vite comprendre. La Tcheka, police politique bolchevique, a été fondée en 1917 par Dzerzhinsky pour éliminer les révoltes de la classe ouvrière, exécuter la famille royale et écraser les magrins de Kronstadt. En 1922, elle devient la GUEPU, puis le NKVD, puis le KGB en 1954, après la mort de Staline. Police politique à l'intérieur et agence d'influence et de manipulation à l'extérieur. La Desinformatia est une invention russe de l'entre-deux-guerres. Je vais vite, mais la quantité d'horreurs perpétrées sur le peuple russe par ces institutions dépasse notre entendement démocratique douillet. Le petit Youri, fils d'officier soviétique épargné par les purges, né en 1939 et devient étudiant aux langues orientales, vivier de recrutement du KGB. Ce dernier l'envoie en Inde, pays qui le passionne, en 1963, avant de le cantonner à une tâche naturelle pour les jeunes soviétiques instruits. Écrire de la propagande. Il travaille à Novosti, cette prétendue agence de presse où les bouclages se font sans débats inutiles, avec le calibre d'un Makarov sur la tempe. Allons au fait. Youri comprend vite. Il regarde l'engrenage des éliminations, propagande, manipulation des masses, agents d'influence plantés dans les universités occidentales, et a comme un doute. Cette gueule de bois idéologique le mène aux États-Unis, où son nom de personnage de Tarkovski oublié est changé en Thomas Schumann. Et il crache divers morceaux, dont le plus gros. La subversion. Bezmenov va nous expliquer calmement, posément, presque amicalement, comment son camp compte détruire une civilisation sans tirer une seule balle. Il parle de démoralisation. Démoraliser un pays, dit-il, c'est lui faire perdre foi en lui-même. Faire en sorte que ses enfants ne sachent plus pourquoi leurs parents se sont battus. Faire croire à une société qu'elle est fondamentalement mauvaise, raciste ou vendue à l'étranger, oppressante ou trop permissive, coloniale ou en perte d'empire, patriarcale ou décadente, choisissez votre parfum. Une sorte de guerre culturelle appuyée sur une tendance de la pensée critique à l'autodestruction. Et ça se passe en quatre étapes.
Démoralisation.
Ça prend 15-20 ans, soit une génération. Changer les manuels scolaires, promouvoir l'autoculpabilisation, éteindre le sens critique par excès de critique.
2. Déstabilisation.
Attaquer l'économie, les relations sociales, les institutions.
3. Crise.
Créer un événement chaotique, un soulèvement, un effondrement.
4. Normalisation.
Proposer une solution, souvent autoritaire. En gros, a-t-on besoin de tanks quand on peut parvenir à convaincre tout un pays qu'il n'a plus aucune valeur, que le combat est perdu et qu'après tout, autant aimer son ennemi plus que soi-même? Pour réussir cette prouesse, il faut une cible déjà conciliante, affaiblie par une situation économique, la diffusion d'une idéologie ou encore plus simplement par le sentiment d'habiter dans un pays foutu. Et c'est une guerre dissymétrique. On ne peut subvertir qu'un pays où les gens sont libres, où ils peuvent être des cibles faciles, comme les États-Unis ou même l'Europe. « 2500 ans avant, déjà, le philosophe chinois Sun Tzu estimait que, pour imposer un pouvoir, il ne faut pas se retrouver sur un champ de bataille. Il disait
« Les experts dans l'art de la guerre savent soumettre l'armée ennemie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un État sans opération prolongée. Tout l'art de la guerre est fondé sur la duperie. »
Bezmenov, alias Schumann, donne des cours, crée à la main. Et les services secrets américains découvrent ce nihilisme implacable et corrupteur exposé façon PowerPoint. Il en parle en esthète, apprécie les qualités de doute répandues à coups de fausses nouvelles et de cacophonie intellectuelle, et prévient d'un chaos à venir dont la solution ne peut être qu'un retour à l'ordre. Rendre l'ennemi vulnérable comme apeuré dans un chaos dont il ne connaît pas les responsables, paralysé au cœur de débats où tout est noir ou blanc. Bezmenov avertit, même s'il pense qu'il est profondément déjà trop tard. On peut trouver ces prévisions apocalyptiques, binaires, voire conspirationnistes. On a même mis en doute son vrai rang au sein du KGB et interrogé son manque d'éléments factuels et de documents. Mais une chose est certaine, il est désormais enseigné dans les écoles militaires américaines. Et son visage apparaît de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, comme si ses prédictions rappelaient étrangement certains aspects chaotiques du débat public de notre décennie. Peut-être ces révélations auraient-elles connu plus d'écho si ce lanceur d'alerte, authentique ou pas, n'avait trouvé la mort prématurément au Canada d'une crise cardiaque liée, a-t-on dit, à son alcoolisme. Et si, dans le fond, les États jouaient entre eux au même jeu maniaque et narcissique que les familles toxiques, les couples à la dérive, les frères ennemis, les pervers, les abusifs, les fakirs de la déception, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens, les moyens que nous leur donnons. Les podcasts de ces émissions sont écoutables à vie sur le site de France Culture. Merci à la talentueuse Fanny Constant, à la technique l'experte Marie-Claire Oumabadi, assistante de production Aurélie Marsay, et bravo à Théo Wiesmann. Allez-y, faites de votre semaine une histoire truculente.